François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebrun, vous êtes professeur associé à Sciences Po et parler de la situation politique en France avec vous tombe sous le sens. Depuis la dissolution surprise voulue par le président de la République en juin dernier, notre pays ressemble à un bateau ivre sans cap et sans capitaine. Aucune majorité à l'Assemblée nationale, un gouvernement à la merci d'une motion de censure et cette crainte de voir, comme la Grèce en son temps, le FMI nous imposer un régime économique drastique au vu de la dette abyssale de la France. François Hellebrun, comment sortir de toutes ces impasses ?
C'est effectivement à la fois inquiétant, mais les Français ont parfois la mémoire courte. C'est un système politique qu'on a connu en France sous la 3e et sous la 4e République. Simplement, les députés de cette majorité, ou pas de majorité d'ailleurs, différents groupes parlementaires qui sont à l'Assemblée, ne se rappellent pas en fait qu'à une époque, quand c'était une république parlementaire et non pas une république semi-présidentielle comme aujourd'hui, eh bien, il n'y avait pas vraiment de majorité qui se dessinait à l'Assemblée, sauf en de très rares occasions, genre le cartel des gauches, le bloc des droites, le Front populaire. Mais sinon, c'était l'obligation de former des coalitions. Et là, à l'Assemblée nationale, nous avons trois blocs. Le Rassemblement national, qui est le premier parti de l'Assemblée, le bloc central et le nouveau Front populaire, le bloc des gauches. Et le problème, c'est que ces trois blocs sont restés très unis, en fait, sans vraiment de logique de concertation, de conciliation, de dialogue, et ce qui conduit au blocage d'aujourd'hui et la possibilité de cette motion de censure qui peut arriver aujourd'hui, comme elle peut arriver dans plusieurs jours. Il n'y a pas cette politique de conciliation, de coopération, de coordination, et puis nos auditrices et auditeurs qui connaissent bien la situation politique en Israël, Israël, depuis sa naissance, connaît ça, c'est l'obligation, il n'y a jamais, très rarement des partis qui ont une majorité absolue, et l'obligation de former des coalitions, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs, puisqu'il y a des coalitions comme celle actuellement en Israël, qui est faite de briques et de brocs, entre des religions orthodoxes qui ne veulent pas servir sous les drapeaux, des extrémistes nationalistes qui tiennent des discours irréductibles voire racistes, et puis un Likoud qui est obligé de s'allier avec eux pour ne pas sauter. Et donc, en France, on pourrait arriver à ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans le débat actuel, c'est que Gabriel Attal a fait un peu cette proposition ce matin en disant qu'il était prêt à élargir à la majorité à la gauche, évidemment à la gauche démocratique et non pas la gauche factieuse et haineuse qui est la France insoumise. Et effectivement, une alliance républicain, bloc centriste, parti socialiste permettrait d'avoir une majorité, d'avoir une stabilité. Et il faut simplement négocier un pacte de gouvernement. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais d'être d'accord sur l'essentiel. Et comme vous l'avez dit, l'essentiel, c'est la situation économique de la France, la situation de la dette de la France qui est catastrophique. Et effectivement, une crise politique majeure, c'est ça l'inquiétude de beaucoup d'économistes et de financiers à juste titre, une crise économique majeure, politique majeure, pourrait entraîner un décrochage des taux d'intérêt. Aujourd'hui, les taux d'intérêt de la France, la capacité à emprunter sur les marchés financiers, c'est là où on emprunte. Aujourd'hui, on emprunte au même taux que la Grèce et on a un point de plus que l'Allemagne. Et donc, si on devait décrocher encore plus, bah, le danger, c'est en fait des frais financiers qui exploseraient. Et là, effectivement, on pourrait être mis sous surveillance ou sous contrôle du FMI, ce qu'ont connu la Grèce, l'Italie, l'Espagne en d'autres temps. Et ce n'est pas agréable parce que là, ils nous forcent à faire des réformes très dures pour réduire notre endettement et nos déficits.
Alors, on va changer de sujet. On va parler de la décision de Sciences Po Paris d'interdire dans ses locaux une conférence de l'eurodéputé de la France insoumise, Rima Hassan. On en a déjà parlé avec vous du fait d'un risque de trouble à l'ordre public. Eh bien, cette décision est justifiée. C'est ce qu'a tranché le Conseil d'État vendredi dernier. Dans sa décision, le juge des référés prend ainsi le contre-pied de la décision rendue le 29 novembre par le tribunal administratif de Paris qui avait ordonné à l'établissement de laisser se tenir cette conférence où la militante pro-palestinienne et députée européenne devait aborder la question d'un embargo sur les armes à destination d'Israël.
Tout à fait, et j'ai souhaité y revenir avec vous parce qu'en fait c'est une décision très importante. En fait, Rim Hassan, depuis maintenant un peu plus d'un an, fait le tour de toutes les facultés en France, toutes les universités, et avec un discours très inflammatoire, très, très excessif, très caricatural, évidemment, puisqu'elle n'arrête pas de parler de génocide à Gaza, ce qui est faux, d'apartheid en Israël, ce qui est faux, de mentir sur le fait qu'elle est soi-disant une réfugiée palestinienne. Elle n'a rien une réfugiée palestinienne, maintenant elle a la nationalité française, et en plus elle est franco-syrienne. Elle a juste une arrière-grand-mère palestinienne, donc elle ment surtout, et surtout elle enflamme les esprits, et j'en avais été témoin quand elle était venue le 5 mars dernier à Sciences Po, puisque le 12 mars, dans une semaine après sa venue à Sciences Po, les étudiants du comité Palestine avaient bloqué le principal amphithéâtre et avaient discriminé de manière honteuse deux jeunes étudiantes juives devant l'amphithéâtre. Donc le directeur de Sciences Po, le nouveau directeur qui est très courageux, très déterminé, Louise Vassy, quand l'association étudiante Students for Justice in Palestine, une des plus extrémistes, l'a invité le 12 novembre, il a, à juste titre, disant que ça représentait un risque de trouble à l'ordre public, il l'a interdit. Madame Hassan a saisi le tribunal administratif qui, une fois de plus, l'a autorisé, en disant qu'il n'y avait pas de trouble, de risque de trouble à l'ordre public, avec une décision un peu étrange. Et par contre, le Conseil d'État, qui est donc la juridiction en droit public la plus importante en France, a considéré que le tribunal administratif s'était trompé et que la décision du directeur était tout à fait légitime. Et j'aimerais vous lire juste deux extraits, deux passages du jugement, parce qu'il est très intéressant et il va avoir des implications très fortes dans toutes les universités en France, ce qui est une bonne chose, où justement le radicalisme, l'appel à haine, l'appel à la violence que Rim Hassan représente, mais aussi d'autres élus insoumis, ne sera plus possible et les présidents d'université auront, grâce à cette décision du Conseil d'État, la capacité d'interdire qu'ils viennent tenir des meetings en fait politiques et de radicalisation au sein de l'université. Donc le juge, alors voilà, ça c'est ce que dit le juge des référés, le juge des référés du Conseil d'État relève que la situation à Sciences Po depuis plusieurs mois est marquée par de graves désordres en son sein ou à ses abords, liés au contexte du conflit au Proche-Orient et aux tensions qu'il suscite en France. Ils se sont en particulier traduits par des intrusions, occupations et blocages dans l'établissement et par des débordements au cours d'événements liés à l'activité de Sciences Po, avec dans certains cas des actes de violence, des intimidations à l'égard des autres étudiants ou des personnels de l'établissement et des dégradations. Très récemment encore, l'accès à Sciences Po a été bloqué le 9 octobre 2024 et son principal amphithéâtre a été occupé le 14 novembre. Et ça, c'est ça la décision qui est importante. Compte tenu de la situation actuelle de l'établissement, et alors que Madame Rima Hassan avait à plusieurs reprises apporté son soutien aux occupations et blocages de Sciences Po, son directeur n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et à la liberté de réunion des étudiants en refusant de mettre à disposition une salle pour la tenue de la conférence envisagée. Donc, effectivement, ils reconnaissent que par ces tweets, nombreux tweets de Rima Hassan, elle a formulé d'abord son soutien au blocage, aux occupations, et elle a appelé à plus de radicalisation. Alors, cette décision du Conseil d'État est très importante, car elle crée une jurisprudence qui va permettre aux présidents d'université en France de s'opposer à l'avenue d'éléments extrémistes, comme Rima Hassan, mais aussi Manuel Bompard, Louis Boyard, qui sont généralement les agitateurs qui viennent dans les universités pour enflammer des publics un peu incultes et un peu ignorants de ces questions. Et donc, ça peut créer justement un précédent et ça permet aussi de renforcer les dispositifs pour lutter contre les appels au boycott qui sont de plus en plus féroces. Il y a de plus en plus de blocages, notamment dans les dernières semaines, il y a eu des blocages à Paris 1, Panthéon Sorbonne, notamment sur le site de Tolbiac, mais aussi à Paris 8, aussi à Nanterre, et donc ces appels au boycott, il faut vraiment lutter contre eux, parce que la France tient bien pour l'instant, contrairement à l'Espagne, la Finlande, le Danemark, la Belgique, et il faut lutter contre eux parce que le boycott est absolument terrible pour les universités israéliennes, parce que c'est le poumon de la recherche et tous les progrès absolument incroyables de toutes les grandes universités israéliennes, et ils ont besoin de ces coopérations internationales. Donc le boycott est absolument criminel contre la recherche et l'intelligence, et donc il faut absolument lutter contre ça.
Le mémorial de la Shoah a mis en ligne, mercredi dernier, il y a tout juste une semaine, plus d'un millier de vidéos de témoignages de survivants, offrant ainsi une autre manière d'entrer dans la grande histoire à mesure que les derniers rescapés s'éteignent. Ce sont un millier de témoignages qui vont être progressivement mis à la disposition du grand public sur la chaîne YouTube du Mémorial de la Shoah avec ses vidéos estampillées, les voix des témoins et la démarche qui débute en fait 2 mois avant le 80e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz. C'était le 27 janvier 1945.
Tout à fait. En fait, depuis plus de 20 ans, au début des années 2000, le mémorial s'est lancé dans une immense collecte audiovisuelle, donc filmée et le son aussi, d'anciens déportés d'abord. C'était notamment à l'occasion de l'agrandissement et la réouverture du mémorial en 2005. Notamment Serge Moati avait filmé les plus grands témoins. On a des très beaux films d'ailleurs qu'on passe en de manière continue dans l'exposition permanente au sous-sol du mémorial. D'ailleurs, je vous encourage à aller visiter le mémorial de la Shoah et son exposition permanente. Le mémorial de la Shoah se trouve 17 rue Geoffroy-Lanier, tout près du métro Saint-Paul, tout près de l'hôtel de ville de Paris. Et il y a, on voit Simone Veil en 2004, on voit Marceline Loridan, on voit Sarah Montard, on voit Milo Adonner. Et ils ont été filmés en pleine forme, en plus, avec des témoignages très forts et très vivants. Et depuis cette époque, nous n'avons cessé de filmer. Et donc, comme vous l'avez dit, il y a plus de 1000 témoignages qui ont été enregistrés à ce jour. Alors, ça a été tout d'abord des anciens rescapés des camps de la mort. Ça a été ensuite des enfants cachés. Ça a été aussi quelque chose qu'on a fait depuis plus longtemps, depuis une trentaine d'années, des Justes parmi les nations. Donc, qui ont la plupart aussi, hélas, disparu. Et donc, on a ces témoignages-là. Et puis aussi des résistants juifs qui ont été au combat. Donc, on a 1000 témoignages. Donc, on pouvait les visionner avant au mémorial, mais il fallait aller à la médiathèque. On pouvait les visionner sur les écrans et les ordinateurs du mémorial, qui sont évidemment toujours accessibles. Nous avons décidé au mémorial de la Shoah de mettre ces plus de 1000 témoignages absolument exceptionnels en ligne, parce qu'avant, ils étaient accessibles, évidemment, depuis toujours au mémorial, mais il fallait venir au mémorial et c'était accessible sur les écrans d'ordinateur de la médiathèque. Mais comme nous avons une chaîne YouTube qui maintenant fonctionne très bien, YouTube Mémorial de la Shoah, vous pouvez aller en ligne, vous y verrez. C'est plus de 1000 témoignages qui vont être mis progressivement en ligne, mais aussi les conférences, les présentations, les déclarations, les principales cérémonies sont toutes en ligne. Et il y a un écran très bien fait pour pouvoir choisir ce que vous voulez. Mais vous pouvez aussi, dans le moteur de recherche, taper le nom de rescapés, d'enfants cachés, de résistants, et vous aurez accès à ces témoignages bouleversants que nous avons filmés depuis plus de 20 ans.
François Helbron, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Sciences Po. Merci et bonsoir.
Bonsoir Pierre.